bonsoir. C'est le magazine sur Radio B, un magazine consacré à l'histoire en France d'un loisir pas comme les autres, le jeu vidéo. Alors, ça paraît comme une évidence, hein, mais il n'en a pas toujours été ainsi. De ses débuts dans notre pays dans les années 60 jusqu'en 1991, il a dû se frayer un chemin à travers les dédales de l'électronique et de l'informatique. Alors, si je vous dis Pong, Amstrad, Atari, TO-7 ou Pac-Man, vous allez peut-être vous replonger dans vos jeunes années où les écrans de télévision ont vu arriver de bien drôles d'appareils. Je vous propose donc de repartir entre 30 et 60 ans en arrière et de revivre quelques minutes dans un monde où les hommes n'avaient pas encore mis le pied sur la Lune, et où plus tard il découvrirait l'usage d'un clavier, d'un lecteur de cassette et de ce mot étrange venu d'ailleurs, la console de jeu. Pour nous accompagner dans ce voyage tricolore à travers le temps, à côté du copilote que je serai le temps d'une émission, dans la DeLorean du Doc, le temps d'activer le convecteur temporel, je vous présente le pilote, co-auteur avec Alexis Blanchet du livre « Une histoire du jeu vidéo en France 1960-1991 des labos aux chambres d'ado » sorti le 12 juin 2020 aux éditions Pix & Love, Guillaume Montagnon. Guillaume, bonsoir.
Bonsoir Michel, heureux d'être là, ben heureux oui. d'être que tu sois le copilote. Voilà. Donc on va faire un petit voyage de 60 ans à peu près.
Ouais, à peu près, 30 à 60 ans. Ouais. Alors Guillaume, à la base, donc, toi tu es un passionné, j'imagine, hein, tu es un passionné de jeux vidéo. Quelle relation entretiens-tu avec ces jeux? C'est autant une passion qu'un mode de vie?
Les deux, tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis quasiment né avec une manette dans les mains. Ma première console de jeu, j'ai dû l'avoir à 5 ans. C'était un Vidéopack. Alors à l'époque, je ne savais pas du tout que c'était un Vidéopack parce qu'on ne regarde pas la machine. On regarde juste, quand on est gamin, l'écran qui joue, enfin, l'écran qui bouge, des petites barres blanches. C'était un écran en noir et blanc. Ouais. Parce que, en plus, c'était un écran intégré pour se situer. Et juste après, j'ai eu droit à un Amstrad CPC avec le lecteur de cassette qui grésille. Et c'est comme ça que on m'a biberonné tout de suite. Mais les premiers souvenirs marquants sont venus avec la console de jeu, notamment Nintendo. Et comme on entendait dans le jingle, Super Mario.
Voilà, exactement. Donc, tu es né en 1985. Mm-hmm. Hein, et donc, tu n'as donc pas connu les premiers pas du jeu vidéo.
Non.
Pourquoi avoir eu envie d'en savoir plus sur l'histoire du jeu vidéo et en France en particulier?
Je dirais que c'est un accident, en fait. Au départ, j'écrivais un livre sur les anecdotes du jeu vidéo. Et petit à petit, dans ma recherche historique, je me suis posé la question, mais comment le jeu vidéo est arrivé en France? Et je connaissais l'arcade, parce que j'en ai joué hein, quand j'étais gamin, au café, voilà, le papa, il dépose au bar, lui, il va boire son pastis, et il donne la petite pièce pour pas que le môme, il fasse, excusez-moi l'expression, chier. Mais voilà, et je connaissais les bandes d'arcade, et je savais que c'était antérieur, parce que quand on lit les magazines de jeux vidéo de cette époque-là, on se doute qu'il y avait des choses avant, et notamment le tennis, donc le fameux Pong avec les deux petites barres. Mmh. Et on commence à chercher. Et en fait, on trouve sur des choses super intéressantes qui n'ont pas été dites depuis cette époque-là, en fait, depuis les années 70. Et on se dit, mince, il faut qu'on raconte cette histoire-là.
Alors, tu n'as pas écrit le livre tout seul, hein, puisque tu l'as rédigé avec Alexis Blanchet. Alors, comment s'est décidée cette écriture à quatre mains? J'imagine que tu le connais, te lancer dans une telle aventure?
Oui, c'est ouais. ça. Alors, je le connaissais, mais par voie d'email, par voie de correspondance, de lettres, comme on dirait avant. Alexis a écrit un livre qui s'appelle Des pixels à Hollywood. Ce livre était assez inédit à l'époque parce qu'il sort en 2010. Il y a très, très peu de livres en France consacrés aux jeux vidéo et encore moins écrits par un universitaire. Et donc, moi, ça m'a tout de suite frappé et j'ai lu son bouquin qui était très intéressant et parce qu'il mettait en parallèle donc le cinéma et le jeu vidéo à partir d'une thèse qu'il avait écrite dans les années 2000 et donc le bouquin se retrouve édité. Et il se trouve que monsieur a fait quelques petites erreurs et moi en tant que passionné de jeux vidéo mais quelqu'un aussi qui aime pouvoir correspondre, je lui ai écrit, écoutez, monsieur Blanchet, vous avez fait quelques petites erreurs dans votre livre factuel, voilà, peut-être que vous voulez corriger pour une éventuelle réédition. Et c'est comme ça qu'on a établi un premier contact. Mais après, c'est resté sans vraiment lendemain, c'était pas rencontré de visu. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur cette histoire-là du jeu vidéo, mon éditeur, donc Pixel Love, m'a dit « Mais tu sais, tu pourrais travailler avec Alexis, on voudrait qu'il fasse un nouveau projet, comme il a fait son Pixel à Hollywood, on pense que tu pourrais travailler avec lui. » Et c'est comme ça que l'histoire, en fait, à quatre mains, a justement débuté avec une répartition des rôles. J'étais plus documentaire. Dans la recherche des personnes, Alexis m'a donné un coup de main à ce niveau-là. Et Alexis a été beaucoup plus dans l'écriture, en fait, dans la rédaction, dans le côté rigoureux. C'est ça qu'il a apporté au livre, parce qu'on avait un souhait dès le départ, c'est que le livre devienne une référence.
Tu parles d'éditeur. Tu avais déjà un éditeur, ça veut dire que tu écrivais déjà des livres ?
Alors, non. Enfin, j'avais eu un premier livre, en fait, qui n'a pas été édité parce que le projet, en fait, il a été avorté. Mais c'est donc Pixel Love, justement. Ce livre d'anecdotes, en fait, s'est transformé en histoire du jeu vidéo en France.
D'accord. Donc, et toi, tu avais... Enfin, vous, enfin, Alexis et toi, aviez forcément une âme d'écrivain avant d'écrire, justement, ce livre ?
Alors, j'ai toujours souhaité écrire un bouquin. Ça a été quelque chose, une lubie depuis l'adolescence. Et j'ai voulais vraiment le faire. Alexis, lui, il avait déjà édité son livre et qui était plus une thèse. Lui, ce qui l'intéressait, c'était par rapport à l'universitaire, parce qu'il voyait qu'il y avait un trou, il manquait quelque chose, en fait, dans l'histoire du jeu vidéo, qui est essentiellement, en fait, américano-centré. On fait un petit tour au Japon, parce que forcément, on a Nintendo, Sega, qui ont eu leur importance. Mais l'histoire du jeu vidéo est rédigée essentiellement à partir des États-Unis.
Donc, vous avez écrit ce livre aussi, donc, parce que ça n'avait jamais été fait. L'histoire du jeu vidéo se devait aussi d'être écrite et laisser une trace, c'est ça aussi ?
C'est très important, oui.
Enfin, du jeu vidéo en France, surtout.
Quand on a commencé à écrire le livre, on s'est rendu vite compte qu'il y avait déjà des gens qui étaient décédés. Et au cours d'écriture de l'ouvrage, en fait, des gens sont morts. Et aujourd'hui, il y a des gens qui décèdent aussi, parce qu'il faut se rendre compte que les gens qui ont travaillé dans les années 60-70, aujourd'hui, ils ont plus de 80 ans, voire 90 ans. Donc, par exemple, dans le premier chapitre, on parle du cas de Paul Brafort, qui est quelqu'un de très intéressant. C'est un ancien résistant qui a œuvré au début de l'Oulipo et qui a écrit ce qu'on peut considérer comme le premier logiciel informatique ludique, un jeu de Go. Et en fait, Alexis Blanchet a eu la chance de pouvoir s'entretenir avec lui en 2013, je crois. Et il est décédé en 2018. Mais on a réussi à recueillir son témoignage. C'était pas forcément dans sa vie. Paul Brafort, c'est un intellectuel. Il a écrit des chansons, il a écrit sur l'intelligence artificielle, c'est un mathématicien. Et en fait, le jeu, c'était juste, un passe-temps. C'était pas forcément sa priorité. Ouais. Et en fait, ça a jeté une lumière sur comment ça s'est construit.
Donc le mot histoire est très important pour vous. Vous avez conçu votre livre comme un livre d'histoire, moi je trouve. Alors il n'y a forcément qu'une histoire, enfin il n'y a forcément qu'une version où, comme pour tout le monde, on s'en aperçoit encore aujourd'hui, l'histoire d'hier n'est pas forcément celle de demain. Vous ne détenez pas forcément la vérité.
On ne détend pas la vérité, tout simplement. Le livre s'appelle Une histoire du jeu vidéo. Alors on a eu des grands débats. Je vous avoue, ça a été vraiment un terminal entre l'histoire du jeu vidéo en France, histoire du jeu vidéo en France et une histoire du jeu vidéo en France. En fonction du titre que vous donnez à votre ouvrage, la suite, l'implication, la signification, la symbolique est complètement différente. Si vous donnez l'histoire du jeu vidéo en France, c'est un côté définitif. Si vous donnez histoire du jeu vidéo en France, bon, vous vous posez un petit peu en manuel, en référence. Mais si vous donnez votre titre « Une histoire du jeu de vidéo en France », ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire qu'on peut discuter parce que l'histoire est quelque chose de mouvant. Nous, on est juste une première pierre angulaire sur cet édifice-là. On appelle, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit en introduction, à ce que d'autres personnes s'intéressent au sujet pour apporter leur version. Parce qu'il y a plusieurs façons de voir cette histoire-là. Ça peut être une histoire économique, ça peut être une histoire géographique, ça peut être une histoire sociologique. ça peut être une histoire médiatique. Enfin, mmh. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez le voir de la version uniquement des femmes. Enfin, c'est vraiment assez ouvert, en fait. Et nous, on voulait juste rassembler, déjà poser une première pierre parce qu'il n'y avait rien qui n'a été fait jusqu'à présent.
Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui, depuis, qui ont lu le livre, vous ont dit non, ça ne s'est pas passé comme ça ?
Pour l'instant, en fait, c'est trop récent. On n'a que 2 ans. On est sur une période, je dirais, de recension. Mm-hmm. Le livre commence à être parlé, on en parle à l'étranger. On sait qu'on a une recension. Il y a des Américains qui ont lu l'ouvrage. En Europe aussi, on a 2 ou 3 recensions qui se passent aussi bien en Espagne, où je crois que j'en ai une en Suède ou en Finlande, enfin voilà, donc, ou en Pologne même. Donc, ça fait discuter, en fait, pour l'instant. Le temps universitaire est un temps qui s'inscrit dans un temps long, mais je pense qu'on aura des retours et, d'ici quelques années.
D'accord. Alors, comment vous êtes-vous organisé pour écrire un tel livre ? Je préciserai, le plan final est forcément celui que vous envisagiez au début de l'aventure ?
Pas du tout.
Pas du tout. Il y avait un plan au début ?
Alors, j'ai le souvenir. Ça, c'est quand même une super belle anecdote. J'avais de la famille. En fait, on a commencé à réfléchir. J'ai dit, bon, on fait le livre, plus ou moins. On a peur. J'ai de la famille qui est en vacances ici. Et bon, pour information, j'habitais de l'Ain. Et on se rendait en voiture à Ars. Comme quoi. Et j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à faire des patates. En disant, ça, il faut aborder. D'abord, ça s'est construit comme ça, en fait. Avant même de faire des thématiques, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut chercher ? Parce que c'est très fouillis comme sujet. Et on attaque quand même une période qui est très vaste. Parce qu'on commence en 1960 et on termine... la bande chronologique du livre, c'est 91, même si on va un petit peu là dans le cas particulier, un cas particulier qui est les jeux de l'automatique, de divertissement, l'arcade. Et donc... il fallait vraiment cadrer tout ce qu'on allait dire, plus ou moins, quels sont les documents qu'on avait besoin, lancer en fait plusieurs ballons avant de savoir. C'est comme lancer des filets de pêche et regarder les poissons qui remontent.
Côté recherche, vous avez fait un vrai travail d'historien à travers les archives disponibles et les personnes qui ont fait le jeu vidéo en France. Ça vous a pris combien de temps avant de vous lancer dans l'écriture à proprement parler ?
Alors, première réunion avec l'éditeur a lieu le 4 novembre, je crois, on va dire début novembre 2011. Bien sûr, on en a parlé bien avant, etc. Donc, on lance tout de suite la recherche. Mm-hmm. Sauf que la vie est parfois compliquée. Et il se trouve que quelques jours plus tard, j'apprends que je dois partir à l'étranger. Et je dois partir pour un peu plus d'un an. Donc, pendant qu'on part à l'étranger, en fait, on n'a pas forcément le temps de lancer, on fait des recherches, mais on ne lance pas forcément l'écriture. Donc, pour moi, l'écriture proprement à parler, elle commence réellement à partir du moment où on lance vraiment massivement la recherche. Mm-hmm. Donc, ça veut dire au printemps 2013.
D'accord. Alors, vous partez donc de l'histoire du jeu vidéo en France au début des années 60. Cela veut-il dire qu'ailleurs, elle a débuté plus tôt et que la France était en retard par rapport au Japon ou aux États-Unis, pour ne citer que les plus connus en la matière ?
C'est une très bonne question. Je dirais que l'histoire américaine a commencé un petit peu avant, parce qu'on peut retrouver des logiciels informatiques, des programmes informatiques ludiques dès les années 50. Le premier en France apparaît en 1960. Et le premier... ce qui pourrait sembler à un jeu vidéo, date de 65. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, plutôt des parallèles, en fait, parce que ça ne communique pas à ce moment-là dans le monde.
À l'époque, oui.
Voilà, ouais. On n'a que la radio.
Le téléphone, mais enfin bon...
Voilà, le téléphone n'est pas forcément Internet.
Et l'avion est cher, donc...
Oui, voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez limité en termes de communication. On assiste plutôt à des phénomènes parallèles, en fait, avec un côté culturel très accentué. En France, parce qu'au départ, on utilise des ordinateurs. L'ordinateur, c'est quelque chose de très difficile d'accès. C'est dans des laboratoires, personne n'a accès. Et c'est parce qu'il y a des gens qui ont un petit hobby où ils ont 5 minutes, ils vont dire on va faire un petit jeu de démonstration ou quelque chose comme ça pour montrer les capacités de la machine. En France, c'est très, très fermé. Aux États-Unis, on est un peu plus ouvert, notamment au MIT. Il y a tout un groupe de hackers qui va faire un premier jeu parce qu'ils ont accès à un ordinateur. Ce jeu s'appelle Space War, bataille intergalactique. Vaisseau spatial, on shoot un autre vaisseau spatial, on se bat autour d'un soleil et voilà, on compte les points après. Donc, on est vraiment sur un vrai prototype de jeu vidéo. Ce qui est rigolo en France, c'est qu'en 65, on a un petit jeu d'arcade, on va dire, parce que on va pointer une cible avec un stylo optique. Ça se passe à Grenoble, à l'IMAG. La personne qui a fait ça, c'était un petit peu pour mettre en avant les capacités de la machine parce qu'elle voulait s'amuser et voir ce qu'elle pouvait en faire à ce moment-là. Mais en France, c'est vrai que la mentalité fait qu'on est, je dirais, assez limité parce que c'est du sérieux. Le ludique n'est...
On ne joue pas.
On ne joue pas. Ouais. C'est pas possible de jouer. On peut pas. Et c'est caché à la limite. Hein. De toute façon, les gens, ils font ça vraiment parce que ils ont peut-être accès à la machine le soir.
Ouais, ils le font en douce, quoi.
Ouais, voilà. C'est tabou. C'est tabou.
Ouais. Alors, comment justement trouve-t-on des traces et des archives, des traces de jeux vidéo dans les années 60? Comment tu as fait pour trouver ça?
Compliqué.
Compliqué, ouais.
C'est compliqué. Au départ, c'est Alexis. Parce que quand on a commencé, en fait, l'enquête, bon, j'appelle ça une enquête, hein, sincèrement, parce que c'est digne d'un truc policier. On n'a pas des loupes, mais on a des bibliothèques et de la poussière à soulever. Et Alexis, en fait, il m'envoie une vidéo de l'INA en me disant « Tiens, en fait, j'ai trouvé quelque chose. » Alors qu'on espérait rien trouver. Sincèrement, c'était... Et on avait un biais parce que ce qui était compliqué, le mot jeu vidéo n'existe pas.
Oui.
Donc, il a fallu bifurquer. En fait, c'est une question de vocabulaire. Si vous trouvez le bon mot de vocabulaire, vous pouvez mieux chercher. Et il y a eu deux choses, en fait. C'est qu'il y a eu le programme ludique, le programme informatique. Donc, on a cherché sur les programmes informatiques dans les années 60 parce que finalement, il y en avait assez peu. Donc, c'est comme par ce mot-là qu'on a essayé de trouver si on avait des choses ludiques. Mmh. Et puis, il y a des choses qui sont connotées au jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est quoi? C'est de l'image. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'image de synthèse. Ah, tiens, on fait de l'image de synthèse dans les années 60. C'est vrai. Et donc, je me suis dit, c'est lié. Est-ce que quelqu'un a eu l'idée en faisant de l'image? Est-ce qu'on pourrait interagir avec elle? Et bingo, c'est ce que je racontais avec l'histoire de l'université, Institut informatique de Grenoble, l'IMAG. Il a fait ce petit jeu de pointage et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver des choses. En termes aussi, comme je vous disais, de publicité. Donc, parce que à partir du moment où on voyait un reportage informatique à la télévision, sur l'INA, c'est comme ça qu'on a réussi à trouver aussi des choses.
Donc vous avez trouvé des personnes, des protagonistes, hein, comme on dit, et envie déjà, et puis en état de faire passer leur savoir, et surtout l'envie de se pencher sur leur passé. Certains n'avaient pas forcément envie d'en parler.
Oui.
Ils avaient honte ou...
Oui, c'est de la honte, et parce que quand on nous a toujours appris que le jeu vidéo, c'est pas sérieux... pourquoi en parler, en fait?
Même une fois qu'ils sont à la retraite, qu'ils sont vieux, ils n'ont pas envie de revenir sur leur passé, c'est tabou.
Oui, c'est tabou. C'est tabou. C'est anecdotique.
Ouais.
Quand vous vivez dans l'anecdotique ou des choses, il y a un rejet, de toute façon. Et, alors, c'est moins le cas aujourd'hui parce que le jeu vidéo est démocratisé, le jeu est considéré de manière un peu plus sérieuse. Mais... hier, le jeu, en fait, c'est pour les gamins, c'est pas pour les adultes, ça n'existe, ça ne sert qu'à peut-être à éduquer à la limite, mais on ne fait pas des choses sérieuses avec le jeu.
Alors, dans les années 60, les écrans n'étaient pas aussi nombreux que dans les années 70, et la technologie n'était pas forcément la même. Alors, qu'est-ce qui a fait que le jeu vidéo a pris en France et est rentré et petit à petit est devenu un pan de la culture, au même titre que la littérature, la musique ou la peinture, hein?
Il faut dire qu'au début, quand même, c'est très simple. Il n'y a pas d'histoire. C'est plus un amusement. Ça relève du gadget. Hein. Enfin, ça peut être très amusant, hein, les gadgets. Hein. Enfin, vous voyez, mais je ne sais pas si vous vous rappelez d'avoir joué au tennis électronique, enfin à Pong. La petite bille blanche qu'il faut envoyer, voilà, vous amusez 5 minutes, vous achetez la machine, voilà, vous vous amusez pendant 2 jours, mais après, vous la remisez dans votre placard et puis ça finit au grenier. C'est juste de l'électronique, en fait, avec laquelle on s'amuse. Le fait est qu'on parle d'art. Alors, la France a eu cette chance parce qu'on a reconnu assez rapidement, enfin, pas très directement, mais on va dire qu'il y a eu un intérêt de la part du ministère de la Culture dès le début, dès l'élection de François Mitterrand, donc en 81. Et il y avait une ouverture culturelle. Mmh. Avant, le jeu vidéo pouvait intéresser l'État français, mais plus de manière industrielle. Ça vient vraiment qu'à partir des débuts des années 80, parce qu'il y a une évolution graphique, parce qu'on arrive à représenter les personnages, parce que le texte fait son apparition, et parce qu'on sent qu'il y a un enjeu, puisqu'on peut raconter une histoire, et d'autant plus une histoire qui peut être écrite en français, la transformation en média se fait à partir de ce moment-là, parce que vous pouvez faire passer un message. Donc, ce que fait le ministère de la Culture, en fait, ils vont monter une association, enfin une agence qui s'appelle l'agence Octet, et dont la volonté va être d'analyser l'émergence du jeu vidéo, de le promouvoir et même de donner un prix annuel à une création de jeux vidéo. La première, c'est en 83, c'est un Infogrames qu'il obtient avec le jeu Mandragore. Et donc, on est sur des jeux assez textuels qui racontent une histoire. Medium, en fait, parvient à se transformer.
La notion de jeu vidéo est importante parce que jusque dans les années 70 et encore, on n'associait pas forcément les deux notions. Alors, faire des jeux vidéo n'était pas considéré comme un vrai métier et qu'on pouvait gagner sa vie avec. Donc, le déclic, c'est...
C'est tardif. C'est beaucoup plus tardif que ce que vous dites parce que... alors, il y a des programmeurs, des créateurs qui le voient directement... La naissance de l'industrie en France, c'est vraiment entre 82 et 84. Voilà, donc 83, année charnière.
Avant, c'est le Far West.
C'est le Far West. Et c'est encore le Far West, hein, de toute façon, quand je vous dis. C'est vraiment parce qu'on donc on a un début de professionnalisation avec des contrats qui rapportent des sommes assez folles, en fait, à ces jeunes créateurs. Parce qu'ils passent 3 mois à créer un jeu. Voilà, on le duplique sur une disquette, enfin... sur une cassette même, des cassettes audio, donc pour dire la fiabilité de la chose. On fait une photocopie sur la photocopieuse, donc il n'y a même pas de création graphique. Ouais. Et on va vendre ça à la boutique du coin. Ouais. Pour les plus chanceux, on peut commencer à passer par un éditeur à ce moment-là. On a un contrat et en fait, on peut gagner plusieurs dizaines de milliers de francs en vendant son jeu. Au départ, c'était plus du troc. Hein. La personne de la boutique, elle apportait son jeu. Tiens, je te donne un jeu. Tu me donnes du matériel qui vaut quand même du matériel informatique. C'est pas forcément donné.
C'était pas donné.
Oui, voilà, c'était pas donné. Quand on regarde un Apple II, c'était plus de 10 000 francs, ce qui est une sacrée somme à ce moment-là. Ouais. Les premiers prix d'ordinateur, c'est quand même 1 000 francs. Ouais. Si on passe du ZX, ZX 80. Sans rien, hein. C'est juste la machine. Après, il faut se débrouiller pour souder. Enfin, voilà. Mais on peut faire des échanges. Mais le fait de gagner de l'argent, c'est venu assez rapidement et les gens ont vu qu'ils pouvaient gagner. Mais au fur et à mesure, en fait, il fallait passer de plus en plus de temps pour faire un jeu. Donc, on a mis quelqu'un qui a fait du graphisme, quelqu'un a fait qui faisait la musique, un musicien. On a mis un programmeur. Donc, c'était plus partagé. Mais on a commencé, voilà, c'est comme ça que le business est sorti.
Mmh. Alors, les médias de l'époque voyaient d'un mauvais œil les jeux vidéo. Le commentaire d'un vieux reportage à la télévision est édifiant, je vais vous le donner. La mâchoire est crispée, il s'en préfilmait un enfant qui est après joué. Hein. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés, les symptômes sont clairs, le diagnostic est sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Ils avaient mauvaise presse, pas facile de se faire une place dans notre culture franco-française, hein, entre les livres, la musique, la peinture. Même la presse ne suivait pas, la presse généraliste, hein, la grande presse, quoi.
La grande presse, en fait...
Ils sont arrivés tard.
Oui, ils sont arrivés... Ils s'intéressent au phénomène comme un phénomène, on va dire, économique au début. assez distant, parce que quand on regarde les premiers jeux, ils restent assez simples. Hein. Le premier Noël des jeux vidéo, ça a lieu en 1977, quand vous lisez, en fait, bah oui, c'est un cadeau de Noël assez sympa. Par contre, le fait est qu'on regarde le jeu vidéo comme une problématique, en fait, commence dès ce moment-là, parce que le premier reportage télé,
fin 70, hein,
je crois. Oui, voilà, fin 70, un reportage qui passe par Antenne 2, qui est lancé par Patrick Poivre d'Avor, sur les envahisseurs extraterrestres au Japon. Et on parle de mafia, de raquettes, et des jeunes filles qui se prostituent pour pouvoir jouer. Bon, c'est quand même allé assez loin, et... Bon, il y a un petit relance xénophobe hein, sur le reportage en lui-même, parce que bon, on regarde ces étrangers-là qui sont complètement maboules à jouer sur des jeux qui n'arrêtent pas de, enfin, qui font un bruit monstre et voilà. Mais
déjà à l'époque, les médias mettaient le doigt sur le fait que les enfants et le jeu vidéo, ça n'allait pas forcément bien aller ensemble.
Oui.
C'est encore le cas maintenant, hein.
C'est encore le cas aujourd'hui.
Quand on abuse. On parle de temps passé par les enfants et les jeunes en général sur les écrans époque vidéo, ça date pas d'hier finalement. Ouais.
Non, vraiment, ça date à partir du moment où la fin des années 70, à partir du moment où les écrans vont se démocratiser.
Voilà, ça aussi.
Il faut se rappeler qu'avant, les gens, moi j'ai bien connu cette époque-là et peut-être vous aussi, hein, quand vous avez un seul écran, c'est la seule télé qui a un totem chez vous, et que vous êtes assis au fond du canapé et que votre père ou votre mère dit « Non, tu ne changes pas de chaîne !» qu'on était obligé de se lever quand même hein, pour changer la chaîne. Mais c'était vraiment un totem et on était assez limité. À partir du moment où on va commencer à avoir sa télé dans sa chambre, on va avoir un ordinateur, ça commence aux années 80, ça s'amplifie dans les années 90, ça prend une autre paire dans les années 2000 parce qu'on a les smartphones, on a les tablettes. Forcément, on va multiplier le temps sur les écrans et la possibilité de jouer.
Ouais. Alors, les années 70 ont apporté une évolution technologique très importante, je dirais même primordiale, dans le développement des jeux vidéo. On est passé de rien aux jeux d'arcade, dans les fêtes foraines, aux consoles de jeux vidéo et aux premiers ordinateurs, hein, bien avant l'arrivée de Microsoft et du format PC. Les écrans à la maison se démocratisent, hein, tu te disais, et on ose brancher un appareil sur cet écran aussi. C'est vrai, hein, on ose brancher un appareil. Souvent, c'est pas simple. Hein.
Ça va exploser.
Hein, donc, en 10 ans, on est passé de l'âge de pierre à l'âge de fer. On peut appeler ça une révolution culturelle.
C'est une révolution de l'appréhension de ce que peut être la télévision. Ouais. En fait, ce qu'on peut faire à un écran.
Ouais.
Je disais que tout à l'heure ça allait exploser, mais en fait, il faut comprendre que toucher en fait la télévision, enfin la connectique de la télévision, on faisait appel à un antenniste avant, le réparateur de télévision qui venait régler la télévision, la chaîne, parce que c'était pas forcément facile pour le quidam. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, il y a ce merveilleux reportage. Donc, lorsque les premières consoles de jeux arrivent en 1977. Les antennistes font leur lobbying pour dire attention, vous ne pouvez pas installer cette machine quand vous voulez, faites appel à votre réparateur de télévision pour régler la console de jeu, pour que vous puissiez jouer. Ce n'était pas du tout naturel de devoir...
Il n'y a pas de prise péritelle. Hein.
Oui, il n'y a pas de prise péritelle. Prise péritelle arrive très vite en France. Ouais. Et d'ailleurs, la France a été très chanceuse parce que le format Péritel, en fait, est unique au format... Enfin, en Europe, ça n'existe pas nécessairement aux États-Unis. Ça n'existe pas aux États-Unis, ça n'existe pas au Japon. Ça a quand même permis la démocratisation des appareils connexes, donc aussi bien que le magnétoscope ou même brancher un ordinateur aussi. Hein. Ouais. Il faut se rappeler que les premiers ordinateurs n'avaient pas forcément de moniteur, mais il y avait... Par exemple, sur le MO5, on pouvait, ou le TO7, on pouvait le brancher sur sa télévision. C'était tout à fait possible.
Alors, de nombreuses sociétés se sont créées, ont fusionné, se sont fait racheter. Certaines nous ont marquées. Je pense à Infogrames, tu disais. Les anciens me comprendront. Hein, micro-applications, Ubisoft, Cocktail, Vision, Atari ou Amstrad. Mais elles ont presque toutes disparu aujourd'hui. Que s'est-il passé ? La mondialisation est aussi passée par là ou c'était finalement une mode qui est passée ?
Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Si je fais un parallèle avec, par exemple, le cinéma, on regardera que sur les studios du départ, aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup. Donc, avec le temps, forcément, les entreprises qui ne tiennent pas économiquement, qui ne sont pas adaptées aux nouvelles donnes du marché, disparaissent.
Ouais, Infogrames, par exemple, à l'époque, ils étaient puissants, non?
Alors, Infogrames a été assez rapidement une très grosse entreprise, ouais, ouais, hein, ouais. Faut s'en rappeler. Elle s'est beaucoup développée dans les années 90. Au départ, enfin, c'est une petite entreprise, hein, ce qui monte, hein, et mm-hmm. ça monte assez rapidement. Bon, ils ont des vicissitudes, mais ça prend de l'ampleur dans les années 90, parce qu'il y a des investisseurs qui s'intéressent, notamment c'était Pathé qui s'intéresse à Infogrames, et donc ils investissent dedans. Ils ont toute une politique éditoriale sur le jeu, notamment par rapport à la licence de BD. Donc voilà, pour ceux qui connaissent et qui ont été traumatisés par Tintin au Tibet ou par Astérix à cause de leurs difficultés, c'est Infogrames qui avait produit ça. Mmh. Mais c'est comme ça qu'Infogrames a réussi à se développer. Ouais. Ce qui se passe, c'est que pour Infogrames, si on reste dans ce cas-là, mmh. ils rachètent Atari en fait à la fin des années 90, début 2000. Et c'est ça qui va les plomber parce qu'en fait, pour eux, ils ne vont pas réussir à s'adapter aux nouvelles donnes du marché parce qu'il y a toujours des nouveaux formats qui exercent. Et qui dit nouveau format en termes de console de jeu, ça veut dire de nouveaux investissements. Et en plus, il faut voir qu'aussi, c'est particulier, au début des années 2000, il y a une grosse crise qui se déroule au niveau du jeu vidéo en France, donc qui va faire Infogrames. Donc, il y a toujours des contextes particuliers. Mais grosso modo, ce qu'il faut en retenir, c'est que les entreprises apparaissent et disparaissent mmh. en fonction des formats, en fait, parce que le jeu vidéo oui. est intimement lié sur le médium auquel on va jouer. Oui. Donc, que ce soit sur ordinateur ou sur les consoles de jeu. Et sur les consoles de jeu, c'est des cycles qui sont très particuliers, qui durent à peu près 5 ou 6 ans. Et en général, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de ces cycles, on voit des nouveaux acteurs émerger et des acteurs disparaître.
Ouais, je pense notamment à Sega, à l'époque, on en parlait. Puis...
Sega enfin... s'est transformé, ils ne font plus de la console de jeu aujourd'hui. Voilà, ils sont principalement éditeurs de jeux.
Ils ne sont plus consoles.
Malheureusement. Voilà. Oui.
Donc, on parle de jeux vidéo à la française. Alors, en quoi se distinguait-il de l'américain ou du japonais? On parle de French Touch.
Alors, French Touch.
Touch, oui, pardon.
Ce qui est amusant, c'était un des titres potentiels pour l'ouvrage au départ. Mais bon, le problème, c'est que la French Touch n'est pas forcément connue de tout le monde. Donc, histoire du jeu en France, on a trouvé ça quand même que ça parlait beaucoup plus.
D'accord. Alors, la différence entre l'américain et le français ou le japonais, parce qu'il y a une différence quand même.
Oui, il y a une différence qui est due à la culture, en fait. Mm-hmm. Alors, pour l'instant, bon, il faut savoir deux choses. Il y a eu ce qu'on appelle en France un phénomène qui s'appelle French Touch et qui a été désigné comme cela, en fait, soi-disant, dans les années 90 pour des jeux qui étaient graphiquement plus beaux, mais injouables. Enfin, c'est une version qu'on retient. Nous, on a une approche complètement différente parce que le jeu vidéo français a vraiment existé, mais il a existé sur une courte période au milieu des années 80. Qu'est-ce que c'est ce jeu vidéo français, en fait? C'est un jeu vidéo qui est finalement assez proche de la littérature. On a des grosses influences littéraires. Donc, par exemple, dans le livre, je cite Bertrand Brocard, qui avait créé sa propre maison d'édition, on peut dire ça comme ça, en mmh. fait, hein, qui était son propre éditeur, qui s'appelait Cobra Soft. Et lui était très inspiré par les polars. Et ça se retrouve dans sa création parce que il a créé une série de jeux qui s'appelle Meurtre. On va le retrouver à BD. Donc, je vous parlais tout à l'heure de licence, ce genre de choses qu'on peut retrouver. Donc, ça va être Les Passagers du Vent, ça va être Nord et Sud. Un peu plus tard, on va avoir de Astérix, on va avoir des Schtroumpfs, etc. On va enfin le retrouver par le côté de jeux d'aventure. Donc, ça veut dire des jeux à texte. Et spécificité française à ce niveau, il y a beaucoup de contexte social, en fait, ou des références mmh. très culturelles françaises. Ouais. Il y a un jeu qui s'appelle Chômedu. On incarne, en fait, un chômeur. Et en fait, on a 24 heures pour retrouver un emploi, sans quoi, en fait, nos parents nous jettent à la rue et notre petite amie nous quitte.
Le Rainbow Warrior, par exemple?
Le Rainbow Warrior aussi.
Par exemple. Hein,
voilà, c'est un jeu qui a été fait 3 mois après l'affaire du Rainbow Warrior, en fait, qui est un gros quiz, mais qui est vraiment sur une affaire qui typiquement, enfin, qui a touché la France de l'époque, mmh. où je pensais aussi au jeu Marche à l'ombre, qui est inspiré en fait de l'album de Renaud. Mmh. Donc, c'est des références typiquement en fait françaises.
Donc, les Américains, et c'est quoi leur culture, leur jeu vidéo alors? Alors, c'est quoi l'American Touch alors?
L'American
Touch. Ou la Japan Touch?
Alors, l'American Touch, je dirais qu'on est vraiment sûr de... On va être vraiment sur des jeux plutôt arcade. On va être aussi sur des jeux de sport qui sont spécifiques à eux. Alors, qui ont plus ou moins parfois aussi un rayon. Les jeux qui marchent aux États-Unis, c'est quoi? C'est le football américain, ça va être le basket, ça va être le hockey, ça va être le baseball.
Ouais, ouais.
C'est vraiment des jeux
culturels, effectivement.
Oui, c'est assez.
Puis c'est un peu plus plainciste, enfin simpliste, c'est de la bagarre.
Pas nécessairement. Ouais. On va être plutôt sur une. Je dirais sur une rapidité d'usage. Quand on regarde les premiers jeux, par exemple Atari, c'est les jeux d'arcade, en fait. Ça doit être. On doit comprendre le principe du jeu en quelques secondes. Enfin, ça doit être même, je dirais, instantané.
Ouais.
Vous jouez à Pong. Mettez votre pièce, vous bougez la manette, ah ça bouge, ah je dois renvoyer la balle, c'est bon, vous êtes parti pour jouer des heures si vous voulez. Il existe aussi quelques jeux d'aventure, mais on est plus sur des thématiques qui sont globales en fait, qui sont sur leur univers à eux en fait.
Japonais alors?
Les Japonais, ils vont utiliser beaucoup d'éléments culturels propres à eux. C'est un marché économique. En fait, qui est autosuffisant, donc qui peut s'auto-alimenter à lui-même et qui est encore autosuffisant aujourd'hui, alors que le marché français n'est plus autosuffisant depuis la fin des années 80. C'est très rare d'avoir un titre qui sort uniquement sur le marché français. Quand je parle d'éléments culturels japonais, voilà, vous allez avoir un temple qui va apparaître, je ne sais pas, une boîte postale, en fait. Bah, les boîtes postales sont rouges au Japon. Vous jouez à Zelda, vous allez voir cette boîte postale qui ressemble à ça. On va beaucoup être sur des RPG qui sont mis à la sauce japonaise avec des constantes qu'on retrouve dans les jeux, en fait. Ce qu'on appelle des tropes, en fait, vraiment des choses qui se répètent.
D'accord.
De manière parfois plus ou moins différente, mais on les retrouve à ce moment-là. Et j'ajouterais aussi que le jeu vidéo japonais a cette particularité aussi qu'on ne retrouve pas en Occident, qui sont les jeux érotiques.
Mmh, oui. Alors, un temps, la plus grosse industrie en France était celle du jeu vidéo. Comme pour beaucoup d'autres, la France s'est désindustrialisée. Le jeu vidéo, comme les autres, il y a encore des talents en France. Alors, où sont-ils et surtout, pour qui travaillent-ils aujourd'hui?
Si vous voulez, on peut essayer de les chercher, toi et moi.
Il n'y en a plus?
Si, il y en a encore. Mais en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu le Québec qui a aspiré beaucoup de talents français parce que les conditions fiscales... et même de vie, sont parfois plus avantageuses que ce qu'on peut avoir en France.
Ouais.
En France, il reste quand même...
Il y a des écoles à Lyon, par exemple.
Il y a des écoles.
Mais les formés ne restent pas en France?
Pas nécessairement. Hein. Ouais. Pas nécessairement. Ils peuvent partir à l'étranger. Le talent français est très apprécié, je dirais, par la qualité de la formation qu'il peut avoir.
Ouais.
En France, quand même, il y a Paris, hein, forcément, qui reste le centre. Mais Lyon a gardé ce statut-là.
Mmh.
Bordeaux a aussi gardé ce statut-là. Et récemment, notamment, il y a Asobo Studio qui a produit, par exemple, Flight Simulator pour le compte de Microsoft. C'est quand même pas rien parce que Flight Simulator, c'est quand même une des plus grosses licences que possède Microsoft.
Mmh.
Et ils ont fait une chose extraordinaire. Ils ont réussi à reproduire le monde en format virtuel. Enfin, c'est quand même une prouesse technique assez énorme. Il y a Montpellier aussi qui est connu parce qu'il y a Ubisoft. Et quand un gros studio est implanté sur un territoire, ça entraîne forcément en fait, des sous-traitants autour. Et donc à Montpellier, c'était surtout parce qu'il y avait le jeu Rayman qui a été développé là par Michel Ancel et les Lapins Crétins. Et aussi, il y a eu toujours le projet, je disais encore hier, on l'attend... c'est Beyond Good and Evil 2 qui est en projet, en instance, depuis 10 ans. Donc peut-être qu'un jour, ils le sortiront, mais bon,
D'accord.
Il reste bien des talents France.
Quoi. En fait, c'est comme pour la recherche. Ils ne restent pas forcément en France parce qu'on on paye mal les chercheurs en France. L'État devrait, s'ils veulent les garder, il faut les payer. Quoi. C'est ça. Quoi. Donc, ils vont en voir ailleurs. C'est un peu ça aussi.
Je pense que ça dépend des conditions qu'offrent les entreprises, tout simplement. Ouais, c'est ça qu'il faut voir.
Est-ce que l'État aide ?
L'État aide, oui. Il y a des dispositifs d'aide qui sont notamment pourvus par le CNC, qui sont des crédits d'impôt pour la pré-production et pour la production de jeux vidéo. Et donc, il y a une portion, en fait, oui, qui est assez, enfin, qui s'impose, en fait, qui était même nécessaire. Parce que, est-ce que c'était normal qu'au Canada, le Québec subventionne son industrie et qu'on ne pouvait pas le faire en Europe. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a les règles qui sont liées au jeu de la concurrence par rapport à l'Union européenne. Mais le fait est que voilà, Bruxelles a accepté. Et donc, une partie des jeux qui sont subventionnés, en fait, pas qu'en France, hein, mais leur dispositif existe au niveau européen.
Alors, les acteurs de votre livre sont pour l'essentiel masculins. Alors pourquoi les filles ne sont pas plus présentes ? L'informatique et le jeu vidéo étaient à l'époque un métier d'homme. Les garçons au bac scientifique et matheux, et puis les filles en littéraire, c'est ça ? À l'époque, c'était ça. Maintenant, ça a changé. Hein. Hein, ça a changé.
Je dirais que c'est un peu caricatural.
Ouais,
en fait,
un peu, c'est pas que caricatural quand même, non ?
J'aimerais rappeler qu'au départ, l'informatique était faite par les femmes. C'était elle qui était derrière en tant qu'opératrice
qui gérait ça.
Il faut se rappeler ça.
Il fallait les petites mains aussi, c'est ça. Ouais.
Voilà.
Je me trompe quand je dis ça ou pas ? C'était quand même très masculin comme monde. Ça l'est toujours.
Alors, masculin, je dirais que dans le bouquin, nous, on apparaît à l'urgence. On apparaît à l'urgence, on est allé voir ce qu'on pouvait trouver. Mmh. Parce que rien n'a été défriché. On a trouvé quelques actrices de cette époque-là. Je pense notamment à Muriel Tramis.
Mais très peu. Hein.
Il y a très peu qui émergent parce qu'en fait, déjà dans la presse de l'époque, elles étaient assez peu citées.
Ouais.
Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que en termes de développeurs, de compétences informatiques, elles n'étaient pas nécessaires là. Par contre, on va les retrouver dans des fonctions beaucoup plus classiques de support. Donc, ça va être l'attaché de presse, ça va être la secrétaire qui s'occupe, ouais, la comptabilité.
Ouais.
On va les retrouver dans les entreprises de jeux vidéo, plutôt dans ce côté-là.
Le côté création, le côté programmation, voilà.
On le retrouve moins, il me semble, au début. Aujourd'hui, quand même, on est sur des rapports qui sont quand même beaucoup plus équilibrés. La figure de la joueuse qui n'existait pas énormément, en fait, dans les années 80.
Les filles ne jouaient pas aux jeux vidéo ?
Si, elles jouaient. Si, elles jouaient. C'est juste qu'en fait, dans la presse, en fait, ce qui est resté dans la trace...
On montrait les garçons pour les filles, hein.
Et cette figure-là de la joue, enfin la caricature, j'en voyais encore une BD de Fuite glaciale il y a quelque temps. On voyait l'homme en train vautrer à la télé en train de jouer et la femme qui faisait des pieds et des mains pour tirer son attention, disant sors de ton jeu. Enfin voilà, c'est aussi ça aussi. Il faut voir que l'homme aussi est caricaturé en tant que joueur.
Ouais voilà.
Et il y a une cible quand même qui est privilégiée, c'est le jeune adolescent, le jeune adulte mâle par les éditeurs. Et ça se ressent dans les représentations qu'on peut avoir dans le jeu vidéo.
Ouais. Donc votre livre est sorti chez Pix & Love, une maison d'édition dédiée à l'univers du jeu vidéo et plus précisément à celui du rétro gaming. Ça semble une évidence de signer chez eux, ça l'a été ?
Directement. Enfin,
C'est une référence, Pix & Love.
C'est une référence, ouais. Pix & Love, en fait, ça fait depuis 2007 qu'ils existent. Au départ, ils avaient fait ce qu'on appelle un MOOC. Donc, c'est un mélange de magazines et de livres qu'on trouve uniquement en librairie. On ne le trouve pas en presse. Et ils avaient fait ça parce que le marché de la presse du jeu vidéo, en fait, en France, dans le milieu des années, mais littéralement, on est passé il y avait une pluralité des dizaines et des dizaines de titres à juste quelques titres, 4-5 qui se couraient après. Mmh. Et ces magazines-là, en fait, ne traitaient pas d'une thématique qui était le rétro gaming, en fait, les jeux anciens. Mais il y avait une passion pour ça. Ils ont senti qu'il y avait un marché et ils ont commencé comme ça, en fait. Et ça s'est goupillé avec un livre, en fait, qui s'appelle « L'histoire de Nintendo », qui était écrite par Florent Gorge. Et en fait, qui voulait aller plus loin que ce qu'on peut trouver comme comme un bout d'article. Voilà, il voulait vraiment un livre qui raconte en fait les débuts de Nintendo, mais bien avant le jeu vidéo. Mmh. Et c'est une œuvre d'histoire. Et Pix, en fait, ça a été vraiment les précurseurs en la matière. Et même dans le monde, en fait, ils ont été vraiment les premiers. À tel point qu'aujourd'hui, on a une situation unique. En fait, en France, on se retrouve avec 5-6 éditeurs qui se tirent plus ou moins la bourre sur le marché du livre de jeux vidéo, qui est un livre de marché. Enfin, c'est vraiment de niche. Hein. Mm-hmm. Mais un livre qui sort, en fait, peut-être parce qu'en France, justement, on a cette culture littéraire-là et qu'on apprécie l'objet livre. Et ça expliquerait peut-être qu'on a plusieurs éditeurs, en fait, qui tiennent ce marché, ce qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs dans le monde. Mmh.
Il y a 448 pages dans votre livre, il fait 1,330 kg, c'est presque le poids d'une encyclopédie.
Oh, c'est un bon petit bébé.
Hein. Ah, non, un petit bébé. Hein. Ouais.
Mais ça peut servir aussi de presse-papier, de cale. Mais bon, je conseillerais aux gens de le lire quand même.
Oui, quand
parce
même.
Parce qu'il y a du contenu qui est intéressant et des choses qu'on apprend en fait. Et normalement... je pense qu'on en sort un peu plus instruit à la fin de la lecture.
Oui, oui, oui. Alors, le livre est sorti également en édition collector à 500 exemplaires, épuisé aujourd'hui avec un fourreau en carton représentant un jeu d'arcade des années 70, Le Bagnard, pour ceux qui connaissent.
82.
C'est pour faire plaisir aux jeunes de l'époque, on ne les appelait pas les geeks encore. Mais...
Bah, c'est pour faire plaisir aux gens qui ont des cheveux blancs comme...
Comme nous.
Comme nous, oui, voilà, ouais. Aujourd'hui.
Pas toi encore.
Ah non, pas encore.
C'est pour les gens qui ont quoi entre...
Alors, j'estime qu'un jeune qui s'intéresse un peu au jeu vidéo peut lire le livre à partir de 14-15 ans. Quelqu'un qui s'intéresse...
Ça ne va pas lui parler du tout, mais bon... presque pas, ouais.
Il peut commencer. Après, il y a des jeunes, en fait, aujourd'hui, qui s'intéressent beaucoup, qui ont 20 ans, et qui se demandent comment c'était avant et qui peuvent tout à fait lire le livre, en fait. D'ailleurs, ce que je recommande aux gens qui n'ont pas forcément... Parce que c'est un livre, en apparence, assez universitaire. Il y a des sources, il y a des notes de bas de page. Mais je dis, ne lisez pas les notes de bas de page. C'est juste parce qu'on a fait ça pour prouver notre sérieux. Mmh. Et c'est plutôt en termes universitaires pour dire notre travail, regardez, il est sourcé. Si vous voulez vérifier l'information, vous pouvez la vérifier dans ces notes de bas de page.
Alors, sur le site Babelio, j'ai vu que le titre original du livre était French Touch, hein, une histoire du jeu vidéo en France avec une tour Eiffel sur fond blanc sur la couverture. Alors, pourquoi la tour Eiffel et le French Touch ont disparu?
Alors, comme ça a été dit, le livre, en fait, il nous a fallu quasiment 10 ans. Pour l'écrire, hein, au moment où on a commencé, la date de parution. Le projet commence en 2008, a eu lieu en juin 2020. Donc, c'est quand même assez long. Cette couverture-là a été faite en 2016, parce qu'on a commencé à évoquer le projet. On a eu une conférence de presse à Sciences Po Bordeaux, à l'IEP de Bordeaux. Et donc, il nous fallait quelque chose, un matériel pour présenter. Écoutez, on arrive sur ça et ça va sortir. Et j'avais soumis à l'éditeur, je vois bien le symbole de la France, c'est la tour Eiffel. Pourquoi pas faire une petite tour Eiffel pixelisée. Mm-hmm. Et le French Touch, en fait, c'était Alexis qui avait trouvé le titre parce que sur le touche, il y a un E. Et c'était un petit jeu de mots qui rappelait un petit peu parce qu'il voulait se mettre dans la lignée de pixel à Hollywood. Bon, la couverture, alors, elle est à moitié réussie parce qu'il y a un gros bandeau bleu, blanc, rouge. Ça fait un peu carte de parti politique. C'est ce qu'on a dit ensuite. On pensait retravailler. Et puis, finalement, l'éditeur, en fait, quand il nous a proposé la nouvelle couverture, quand on a déposé le manuscrit en 2019, en fait, on a dit, c'est nickel. C'est vraiment ce qu'il faut, en fait.
Ouais. Votre livre est un vrai travail de chercheur. Alexis est un universitaire et a été chercheur associé à la Bibliothèque nationale de France. Tu te situes où, plus du côté du passionné de jeux vidéo ou plus du côté du chercheur?
J'ai basculé. J'étais vraiment, vraiment passionné de jeux vidéo à tel point que je pense que sans problème, quand j'étais ado, jeunes adultes, notamment pendant les vacances, je devais peut-être jouer 40 heures, 50 heures dans la semaine, en fait. Ça pouvait, je pense que ça pouvait vraiment, vraiment arriver. Mais il se trouve que lorsque j'ai commencé à passer dans à écrire le livre, en fait, ben, j'ai diminué ma consommation de jeux vidéo. C'est vraiment un peu le paradoxe, à tel point qu'aujourd'hui, ben, si j'arrive à faire deux jeux dans l'année, ça tient de l'exploit.
Ah ouais.
Donc, et c'est plus le côté maintenant recherche, défraîchir, trouver des choses en fait, et après faire parler la mémoire aussi. C'est un comme on le disait, c'est un travail de mémoire et c'est passionnant. Et essayer de recueillir cette mémoire pour qu'elle puisse rester vive, donc de la mémoire vive pour les générations futures et pas de la mémoire morte. Je trouve ça assez.
Tu vas changer de drogue en fait, c'est ça?
Oui, mais bon, c'est des drogues qui sont saines. Hein.
Oui, oui.
Tant qu'on n'en abuse pas,
voilà, c'est ça.
Avec modération.
Exactement, oui. Alors, deux ans ou presque après la sortie du livre, alors, quels sont les retours autant des professionnels que des passionnés de jeux vidéo?
Alors, les retours, franchement, j'en suis assez fier. Ça a ouvert des portes pour moi. J'ai pu faire une conférence en février 2021 à la Bibliothèque nationale de France, donc ce qui est quand même pas rien. C'est une conférence qu'on peut voir d'ailleurs sur YouTube, donc qui est une table ronde en fait, et on raconte un peu l'ouvrage, comment il a été créé, avec d'autres détails que ce qui a été dit ce soir. Et pour moi, ça me permet aussi de continuer l'écriture, parce que tu es sur d'autres projets aujourd'hui. Donc, ça me permet d'ouvrir des portes que je n'aurais pas pu soupçonner ou rencontrer des gens. Voilà, je dirais que c'est beau, c'est magnifique, en fait.
Mmh. Au niveau des ventes?
Au niveau des ventes, aujourd'hui, on a eu un tirage, en fait, voilà, premier tirage assez conséquent, qui est bientôt épuisé. Hein, on arrive vraiment, donc, et pour l'instant, enfin, on espère pouvoir le rééditer, mais c'est pas dit pour l'instant. Voilà, on arrive vraiment sur ceux qui veulent se le procurer. En fait, ils peuvent le faire soit en librairie Fnac ou ils peuvent le faire sur le site de l'éditeur. Mais on arrive vraiment sur la fin de la chose. En fait, ouais. Et voilà. Si vous voulez le dernier exemplaire, bah, faut se dépêcher.
Alors, le livre a fait l'objet de nombreux reportages dans les médias français. Il est sorti après la première vague du Covid-19 et juste avant la deuxième. Pour assurer la promo, j'imagine que ça a été plus compliqué, là.
Un peu déçu. J'espérais faire une dédicace et à ce jour, je n'avais pas fait de séance de dédicace publique, en fait. C'était prévu à la Bibliothèque nationale, notamment, et j'aurais fait avec Alexis. C'est très difficile de... Enfin, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on a des agendas complètement différents de nous réunir. Et on n'a pas pu. La conférence s'est faite en fait à huis clos. Et donc, on n'a pas pu faire de dédicace à ce moment-là. Et à ce jour, bah oui, je n'ai pas fait de dédicace. J'ai fait des dédicaces. Bon, j'ai fait des fêtes chez moi pour une privée. Mais je n'ai toujours pas fait de dédicace publique à ce jour.
Et dans la bibliothèque du coin, dans les magasins
Non.
Non plus.
Non, non. Bah, le Covid a beaucoup...
C'est reparti les dédicaces. On en voit partout maintenant des dédicaces.
Oui, mais en fait, le livre, il faut voir qu'il est sorti il y a deux ans. Et comme je disais, je suis occupé sur mon nouveau projet aujourd'hui. Et je pense que ça pourra repartir à ce moment-là, en fait. Quand le nouveau livre sortira.
Donc j'imagine qu'il y aura une suite à ce livre.
Oui. Il y aura une suite, mais ça prendra du temps. Alors peut-être, j'espère pas 10 ans, mais j'espère pouvoir bientôt m'y atteler voilà, et vraiment faire quelque chose qui concernerait reprendre les années 80, des éléments qu'on n'a pas pu aborder, comme le Minitel, par exemple, et surtout les années 90, parce que sur les consoles japonaises, quand même, il y a beaucoup de choses à dire.
Ah ouais. Donc, si le premier était intitulé 1991, des labos aux chambres d'ados, quel pourrait être le titre du suivant?
J'ai pas du tout réfléchi. Enfin, on a commencé à y réfléchir, mais on n'a pas trouvé pour l'instant.
D'accord. Alors, t'aurais envie d'écrire un livre qui n'aurait rien à voir avec celui que tu viens d'écrire, un roman, un recueil de poésie ou un essai économique ou politique
Un roman. Franchement, ça serait un roman. je pense pouvoir faire un roman ensuite, ouais.
Eh bien, merci Guillaume Montagnon d'avoir accepté l'invitation de Radio B.
Merci Michel.
Ouais, t'as pas tout dit, hein, parce que y a plus de 500 pages et il y a plein de choses à raconter. Hein. En une heure, c'est hyper réducteur. Pourtant, c'est une heure quand même.
Pour information, on a fait quand même 2 heures à la BNF.
En rappelant que tu as sorti avec Alexis Blanchet le livre « Une histoire du jeu vidéo en France 1960-1991, des labos aux chambres d'ados », que vous avez sorti le 12 juin 2020 aux éditions Pix & Love. Où et comment peut-on se le procurer ?
Comme je disais tout à l'heure, hein, on était en fin de tirage, en fait, sur le site de l'éditeur. Donc, édition Pix & Love. Vous tapez sur un moteur de recherche et vous trouvez assez facilement. Ou vous commandez dans votre librairie du coin ou à la FNAC. Vous pouvez aussi encore le commander.
Je rajouterais sans oublier la bibliothèque de Bourg-en-Bresse du coin, non ? Il y est, le livre ?
Je sais qu'il est à la BM de La Part-Dieu, à Lyon. Après, sur les bibliothèques de Lens, je ne sais pas.
On vous retrouvera un jour en dédicace ?
Oui, peut-être. Un jour, peut-être. Ouais, dans une petite librairie à côté, là.
Bah oui, c'est parce qu'il manque dans le coin.
Oui, j'ai vu, il y a Trévoux, il y a aussi à Bourg.
À Guillaume Montagnon, bonne écriture, bon jeu vidéo aussi. Et puis,
merci.
Puis à bientôt sur Radio B.
À bientôt.
« 1991, des labos aux chambres d'ados »,